Cormier, Linda Lemay, Patrice Michaud et Lou-Adrienne Cassidy, ou laissez-vous charmer par les voix de Béris, Mélissa Bédard et Diane Tell dans cette salle unique située à quelques pas du traversier. Si je t'emmenais loin, loin de ta vie. Découvrez la programmation complète de l'Anglicane au langlicane.com.
Écoutez Entrée de secours chaque jeudi dès 17h. Découvrez les dernières sorties musicales et les concerts à ne pas manquer dans la région. Entrée de secours, c'est le moyen d'ouvrir ses horizons. À travers les inspirations de votre animateur, passez de la musique contemporaine au hip-hop. Comme de l'électro à l'indie rock. Entrée de secours, votre heure de répit hebdomadaire sur les ondes de CKIA 88.3.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. La Barat, un organisme de Québec qui répond aux besoins alimentaires dans la région, est sur le point de mettre la clé sous la porte. Alors que le recours aux banques alimentaires atteint des niveaux jamais vus dans la région de la capitale, l'organisme appelle à l'aide. Dans un effort de faire bouger les choses rapidement, la Barat a obtenu des appuis de plus d'une trentaine d'organismes de la région, dont Centraide et Moisson Québec. Mais si rien n'est fait, le plan d'action de l'organisme prévoit d'augmenter ses prix et ses frais de livraison. Sans aide, certains services pourraient être coupés ou même menés à la fermeture de l'organisme, prévient le directeur général Stéphane Paradis. Celui-ci demande une aide stable de la part du gouvernement du Québec. L'organisme vient de perdre un de ses donateurs les plus généreux et par extension près de 8 % de son budget. Pour aider, vous pouvez faire un don sur le site canadahelps.org ou contacter directement la Barat au 418-527-1173. Du 22 au 24 mars, l'Université Laval est l'hôte de l'Expo Sciences autochtones Québec 2022. L'événement est organisé en partenariat avec l'Association québécoise autochtone en sciences et en ingénierie, l'ACACI. De nombreux jeunes scientifiques provenant d'une dizaine de communautés et leurs mentors participeront à cet événement virtuel. Sur le thème « Science en action avec les premiers peuples », cette compétition scientifique s'adresse aux élèves de la cinquième année du primaire jusqu'à la cinquième année du secondaire de toutes les communautés autochtones du Québec. À compter du 22 octobre 2022, trois nouveaux indicatifs régionaux seront introduits au Québec. Le nouvel indicatif régional 263 sera introduit à Montréal dans la zone du 514 et 438. L'indicatif 354 sera introduit dans la région desservie par les indicatifs 450 et 579 en périphérie de Montréal. Et l'indicatif 468 sera attribué aux régions desservies actuellement par les indicatifs 819 et 873. L'introduction de ces nouveaux indicatifs régionaux permet de répondre à la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone. Ce matin, c'était spécial budget provincial à l'émission Québec Réveille. Pour l'occasion, Marjorie Champagne recevait Julia Posca de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, Véronique Laflamme du FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, Yannick Marcil, économiste, et Mercedes Roberge de la table de regroupement provinciaux d'organismes communautaires bénévoles. L'émission peut être réécoutée sur Facebook, Twitch et ckiafm.org. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et ckiafm.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues.
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Jardin Perpétueux sur les ondes de CKIA-FM 88.3 et aussi sur Facebook Live. Je suis dans mon sous-sol, mon bureau sous-sol. Je m'appelle Larry Hodgson et je suis un passionné de jardinage comme j'imagine pas mal tous les gens qui va écouter l'émission aujourd'hui. Et comme tout le monde, j'assiste au retour de printemps et je suis bien content. C'est pas que j'aime pas l'hiver, j'adore l'hiver. Mais c'est tellement beau quand on voit des plantes commencer à pousser. À l'extérieur, c'est sûr qu'on voit pas autant de signes de croissance. Mais dans nos plantes intérieures, que ce soit des semis, des boutures ou juste nos plantes de maison, on voit bien que ça pousse. le nouvel tige paraît, la nouvelle feuille. C'est un plant fleurisse. C'est vraiment intéressant. Et ceux qui ne fleurissent pas, ils vont bientôt fleurir. C'est une excellente période pour empoter, excellente période pour bouturer. On est encore dans la période fait des semis, d'ailleurs, on va l'être. Moi, je ne fais pas beaucoup de semis au mois de mars. Mais au mois d'avril, j'en fais pas mal plus au début de mai. Fait qu'on arrive dans cette période-là de l'année aussi. Donc, vraiment, là, on a certaines activités, mais à l'intérieur. Actuellement, chez moi, de toute façon, je suis à Québec, je ne peux rien faire à l'extérieur, il y a de la neige partout. C'est comme ça. C'est l'hiver dehors, mais pas à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, c'est doux, pareil, comparativement, bien sûr. Si on regarde la météo, on voit que c'est doux tout le long. C'est presque toute la semaine, ça va être en zéro ou juste un peu en bas, pas beaucoup plus. On va avoir un mélange de soleil, de neige et pluie, encore de soleil. Et on a donc une période de temps où, d'accord, il peut tomber de la neige et ça va fondre vite. Il y a un effet permanent. Et à date, on est ici, la célèbre tempête de Saint-Pat, je ne le vois pas. Je sais qu'ailleurs, il y a beaucoup moins de neige. On m'a dit qu'il n'y a pas de neige à Montréal ou presque pas. À Québec, ce n'est pas le cas. Il y a encore énormément de neige. Et ça dépend où vous êtes au Québec. Mais le printemps arrive. Mais ce n'est pas encore arrivé. Même si officiellement, c'est le printemps depuis quelques jours, c'est encore la fin de l'hiver ici. On voit comme ça. Donc voilà, avec cette petite introduction, allons voir qu'est-ce que vous avez comme question.
Oui, les questions. Tout d'abord, ben, il y a Mélanie Brière qui nous dit bonjour de l'Outaouais. On a donc, on va y aller avec la première question. Anne-Marie Gélina, bonjour. Pourriez-vous nous indiquer tout ce que nous avons à faire à partir de maintenant avec nos bulbes de canna, anémone de des jardins, crocus mia et dahlia, mise en terre, arrosage, plantation jardin? Merci.
OK, bon. Donc, c'est quand même, tous ces bulbes-là tombent dans la catégorie qu'on appelle des bulbes tendres ou les bulbes gélifs. C'est que sous notre climat, pas nécessairement ailleurs, mais sous notre climat, ces plantes-là ne peuvent pas passer l'hiver en pleine terre. Et ça, c'est vrai même si on nous les vend à l'automne. Dans le cas de l'aliment des jardins, souvent nous le vend à l'automne, ce qui est ridicule parce qu'on ne peut pas le planter à l'automne. Mais en tout cas, c'est le cas. Ces plantes-là. Donc, allons-y de façon générale. On peut partir ces plantes-là à l'intérieur ou pas. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut comme résultat. Certaines plantes, il faut aussi bien les planter à l'extérieur quand le sol serait réchauffé. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. D'autres, ça vaut la peine de les porter dans la maison. Et on va regarder le cas de notre bulbe de canna. On va l'utiliser comme exemple. Il se trouve que le canna aime la chaleur, beaucoup de chaleur, n'aime pas de froid. Donc, le canna, s'il y en a tant, qu'il fasse assez chaud pour planter un canna dehors. Et à Québec, je dirais, ça serait probablement pas avant la mi-juin, et peut-être même fin juin. Ce plante n'aime pas le froid. Et le sol est encore froid dans bien des régions à la mi-juin. Donc, pour cette plante-là qui est tellement frileuse, on va en général la porter dans la maison. Quand? À peu près maintenant. On peut le faire partir le mi-mars, fin de mars, début d'avril, quelque chose là, c'est certain que les grandes, grandes variétés, parce que certains cannas peuvent atteindre 2 mètres et plus. Plus c'est haut, plus ça prend le temps à fleurir. Donc, les grands cannas, c'est ceux qu'on porterait le plus tôt dans la maison, et les petits, on peut les porter plus tard parce que ça fleurit jeune, plus au milieu de l'été. Donc, on peut les partir et le truc, c'est facile. Vous prenez votre rhizome, le cas d'un canna, c'est un rhizome, plutôt qu'une bulbe, vous l'empotez dans n'importe quel pot. Ça n'a pas d'importance, tant qu'il y a du terreau et qu'il y a un drainage. Et vous le couvrez à peine de terreau, peut-être 1 cm ou 2. Et vous le mettez dans un endroit chaud, humide, et vous gardez ça humide. Vous pouvez mettre une dôme ou pas de dôme, ça n'a pas d'importance. Et ça va commencer à pousser. Et plus tard, donc, vous continuez, vous maintenez comme ça, et vous allez donc l'arroser au besoin. Faites les épaisses un peu. Ça dépend à la vitesse de croissance. Mais vous allez surtout l'acclimater à l'extérieur. Peut-être vers la fin de mai, quand les nuits commencent à être un peu moins frileuses. Et vous pouvez donc commencer à l'acclimater peut-être peu à peu aux conditions extérieures. avant de planter dehors. Donc, ça, c'est un cas d'une bulbe vraiment frileux. Ça, c'est le premier cas. L'aliment des jardins, c'est pas la même chose. L'aliment des jardins est une bulbe avec des grosses, grosses fleurs, rouges, bleu foncé, roses, bicolores, etc. Très jolies plantes, beau feuillage découpé et presque rustique. C'est pour ça que les centres jardins les vendent à l'automne. C'est qu'ils reçoivent ces bulbes-là parce qu'ailleurs au monde, sauf presque au Québec, on peut les planter à l'automne et ça fleurit tôt au printemps. C'est une plante comme une plante de tulipe, quoi. Mais chez nous, ça passe pour l'hiver. C'est un peu pour une zone 7, peut-être une zone 6. Donc, on est juste en dehors de sa zone. Donc, ce bulbe-là, moi, je suggère de planter directement dehors. Elle n'aime pas le froid. Elle pousse bien, pas bien. Quand elle fait plus de chaude, le porter dans la maison, ça vous donne quoi? Vous allez juste nuire à sa croissance. Vous faites beaucoup mieux d'attendre que le sol soit dégelé dehors, mais encore frais et même froid, bien drainé, et là, vous le planterez. Et là, dans le sol frais et froid, encore c'est ce que la plante aime, elle va commencer à pousser. Par contre, ce qui est bizarre avec cette plante-là, alors que ça pousse au printemps, ailleurs au monde, au Québec, ça va fleurir à l'automne. Complètement décalé à cause de saison de floraison, la température. C'est pas du tout une plante qui est bien adaptée. L'animal ne comprend pas, si on veut. Ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme un con. Crocosmia. Ça dépend où vous êtes au Québec. Mais souvent, les crocosmia sont assez rustiques pour passer l'hiver. Peut-être pas à Montréal, où il n'y a pas de couverture de neige. Mais chez moi, entre autres, même si je suis dans une région plus froide que Montréal et Québec, avec la neige, ça empêche le sol de geler. Pas juste de geler trop en profondeur, c'est plus, il n'y a pas de ce yo-yo de température, des hauts et des bas de sol qui changent. Ça, c'est fatal au crocosmia. Donc, les gens qui jardinent comme chez moi, où il y a de la neige tout l'hiver, portez pas ça dans la maison, ça ne donne rien. C'est une plante adaptée à l'extérieur. Attendez que ce soit bien dégagé de la neige, asséché un peu, plantez ça dehors. Vous laissez en permanence. À Montréal, il faut quand même le cultiver en pot. Mais moi, j'attendrai. Je le mettrai dehors l'été dans un pot et je le rentrerai à l'automne. Cette plante-là n'a pas besoin de partir de la maison. Troisième exemple, c'est le dahlia. Là, vous avez le choix aussi. Les petits dahlias, si vous les partez directement dehors, vont vite entrer en fleurs et fleurir tout l'été. Vous pouvez les partir dans la maison si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Les grands dahlias, il y a un avantage de les partir en maison parce que la floraison tarde. Ça vous donne une semaine ou deux de plus. Mais il ne faut pas partir le dahlia trop tôt. Le dahlia n'est pas bien adapté aux conditions qu'on peut lui donner à l'intérieur. Donc, alors que d'autres bulbes, je peux dire, oh, ben, écoutez, partez ça en disant, démarrez votre bulbe vers la fin de mars ou début d'avril. Moi, je devrais attendre début de mai. Vous voulez juste quelques semaines à l'intérieur, pas plus. Et juste assez pour lancer la plante pour qu'elle commence à pousser à peine. Et là, vous le mettrez dehors. Donc, c'est un mélange de choses. Que voulez-vous que je vous dise? Chaque bulbe a ses préférences. Ce qui arrive quand on jardine depuis quelque temps, on expérimente, puis on découvre qu'est-ce qui marche bien chez nous. Parce que le résultat varie d'un endroit à l'autre. Et voilà une réponse longue, mais une question qui est un peu complexe, je ne sais pas.
On va y aller maintenant avec Aiden Knight, qui a deux questions. Quoi faire pour rendre mon olivier d'intérieur de 1 an plus fourni? Il a perdu des feuilles lorsque je l'ai reçu. Il est dégarni depuis. Mais il est stable depuis plusieurs mois. J'ai trouvé la bonne place pour lui. Puis-je le tailler comme un hibiscus?
Écoutez, avec cette lampe-là, j'essaie de fermer mon téléphone. Je sais toujours comment fermer ça. Hein? Non, je ne sais absolument pas comment arrêter un téléphone. Bon, écoutez, on va laisser sonner. Donc, l'olivier est un arbre qui est cultivé dans la Méditerranée et qui vient d'ailleurs de ce coin-là du monde. Vous pouvez deviner ses besoins. Plein soleil, plein soleil, et un sol qui s'assèche pas mal entre les arrosages. En pot ou dans la maison, la plante a des difficultés parce que ce ne sont pas des conditions qu'on peut lui donner. Nos hivers, la lumière manque, la plante aimerait être au frais, ben oui, on a beau dire, ben c'est de la Méditerranée, c'est la chaleur, n'est-ce pas? Je vous allez dans le secteur de la Méditerranée au mois de février, au mois de janvier, je vous assure, ce n'est pas chaud. C'est froid. C'est pas froid comme au Québec. Mais c'est une plante, donc, qui subit tous les hivers, des températures fraîches et même du gel. Pas beaucoup, mais un peu. Donc, cette plante-là aime ça être dans un milieu froid. Donc, la pencher, si vous êtes capable, la mettre dans un endroit très éclairé, mais très froid, ça peut aider. Parce que sinon, c'est un peu normal qu'il perde des feuilles parce qu'il est un peu stressé par la température. L'été, mettez-le dehors si vous êtes capable, au plein soleil. Et avec ça, il va commencer à récupérer, mais il ne fait rien de très rapidement. L'olivier, pas toujours avoir une super beau. Les gens font le journal, ils en vendent parce que les gens veulent en acheter. Mais avoir des beaux spécimens, c'est rare qu'on en voit. Parce que c'est une plante pas bien adaptée à la culture à l'intérieur. C'est beaucoup plus une fantaisie du moment. J'imagine, dans quelques années, on va avoir pas de choses. Parce que c'est des bonsaïstes, des fois, réussissent. Mais ces bonsaïstes-là, eux, ils mettent des heures et des heures et des heures à entretenir. Et ça, c'est probablement. Voilà.
Je vais spécifier, Henri, il y en a peut-être qui ont, comme moi, des difficultés de son avec toi. On ne sait pas pourquoi, on a testé avant l'émission, mais il y a des tout petits problèmes de son. Bon, vous le constatez si vous nous écoutez via Internet, qu'on est chacun chez soi. Donc, ça se peut que Internet fasse des petits bugs. Donc, on s'excuse et on espère que ça ne durera pas toute l'émission. On va y aller maintenant, Larry, avec l'autre question de Aiden Knight. L'eau de Beauport qui provient de la rivière Montmorency dans la ville de Québec est-elle calcaire? Comment le savoir? Est-ce que ça vaut la peine d'arroser ces plantes d'intérieur avec de l'eau non calcaire? Quelle est la plus-value? Merci.
Je ne sais pas exactement le niveau de l'acide, le pH, quoi. Ce pH qu'on mesure qui indique acide ou alcalin. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais en général, si c'est de l'eau municipale, c'était traité pour le rendre plus calcaire. Et pourquoi? Pas pour nos plantes. C'est pour que ça ne se corrompe pas. Ça a moins tendance à développer des maladies ou transmettre des maladies qui peuvent nous influencer ou rendre l'eau imbuvable. Donc, probablement c'est quelqu'un. Mais pas quelqu'un, point épouvantable. Donc, est-ce qu'il faut bannir l'arrosage de l'eau municipale de notre vocabulaire d'aujourd'hui? Pas du tout. Continuez comme d'habitude. Il y a juste certaines plantes qui tolèrent vraiment pas le calcaire. Et là, je parle vraiment d'une petite majorité des plantes intérieures, comme les plantes carnivores, par exemple, qui ne tolèrent pas du tout le calcaire, ou les azalées intérieures, qui aiment vraiment, vraiment une sol acide. Pour les autres, arrosez comme d'habitude, mais prenez l'habitude de temps en temps de laisser couler l'eau à travers. On va donc faire sortir le calcaire par l'arrosage. Et mettez un peu on peut mettre un peu de un produit acidifiant dans l'eau, comme le vinaigre, qui va aider à faire dissoudre le calcaire et à lessiver. Donc, vous prenez votre plante, vous mettez l'évier, vous arrosez avec l'eau, mettez un peu de vinaigre, et ça va aider à lessiver. Ou mettez vos plantes dehors pour l'été, et le pluie va le faire. Par contre, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas utiliser le pluie. Bien sûr qu'on peut. Mais je pense que ce n'est pas la peine pour la plupart des plantes de s'inquiéter de ça. C'est un détail de la culture, mais un détail relativement mineur. Il faut juste prévoir qu'il faut rempoter plus souvent quand on a un eau qui est calcaire.
On va y aller maintenant avec la question de Mélanie Brière. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais quelles sont les chances de réussite si je sème du gazon en plein été? On déménage cet été et on doit aménager une cour à partir de rien. Ce sera en zone 4. Merci.
Bon, voilà. Ben, le fait que vous avez les zones 4, ça aide un peu, parce qu'en général, en zone 4, les étés ne sont pas si. L'été dernier, l'été, mais ce n'est pas un été tout à fait normal. Donc, avec un peu de chance, ça va aller. Donc, si on divise la période de l'année en moment propice pour poser un gazon et un moment moins propice, le meilleur moment, c'est l'automne, toujours, toujours. C'est le moment. Si on ne peut pas l'automne, le printemps est le deuxième meilleur et le troisième, c'est l'été. c'est que les gazons, les graminées, aiment ça l'eau et ça a tendance à sécher vite l'été. Et l'eau peut même être manquée. Ça nous oblige à arrêter les arrosages. Donc, ça, c'est le premier problème. Et aussi, les plants, les gazons germent mieux quand il fait frais. Pas froid, mais frais. Donc, on a une meilleure germination, une meilleure reprise des racines aussi, si on a si on pose des plaques, une reprise quand il fait frais. L'été, ça va. Mais plus qu'il fait chaud, moins ça va bien. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que si l'été demeure relativement frais, et qu'il pleut souvent, même le gazon posé l'été va bien. Si par contre, on était chaud et sec, le gazon va pas bien. Vous n'avez pas le choix, j'ai compris que vous n'avez pas le choix. C'est gérer dans ce cas-là, d'arroser quand vous pouvez. N'oubliez pas que la plupart des municipalités, je vais discuter de ça, là, je ne sais pas pourquoi, la plupart des municipalités ont des règlements qui permettent d'arroser un gazon, même en période où c'est défendu d'arroser, si c'est un gazon fraîchement posé. Donc, vérifiez. Parce que, idéalement, la première été d'un gazon, on l'arroserait régulièrement. On ne laisserait jamais complètement sécher. Ça serait une bonne façon de protéger vos plants.
Danny Marin a deux questions. Je vais y aller avec la première. On m'a donné du 20-20-20 qui semble assez vieux de plusieurs années. Est-il encore bon?
Oh, bien sûr que oui. Les engrais, c'est des minéraux. Hein. Minéraux, c'est minéraux. Ça ne se dégrade pas. Ou si des fois, ça ne finit pas. Former un pain. Moi, ça m'a déjà arrivé d'avoir un engrais qui est devenu un pain dans son contenant. Ben là, j'ai juste cassé et je l'ai utilisé. Si la couleur s'en va, peu importe. Parce qu'on a des colorants dans l'engrais. Il hein. ne faut pas que ce soit blanc. Il faut avoir de la couleur. En tout cas, non, il n'y a pas de problème d'utiliser un vieux engrais. Ça ne diminue pas sa capacité.
Et bien, j'imagine que tu as répondu à la deuxième question dans la première, mais il est...
Tu me donnes juste la première question.
Oui, je sais, mais la deuxième question étant, si j'en prépare d'avance, sera-t-il bon pour un certain temps?
Donc, si vous mettez... OK, pas la même chose. C'est une autre question, complètement. Danny Marin a bien raison, c'est une autre question. C'est que là, ce qu'il veut dire, c'est que l'engrais en question doit être un engrais soluble. Un engrais soluble, c'est des granules qu'on fait dissoudre dans l'eau. Et combien de temps que ça peut durer? Là, une fois que c'est humide, il peut avoir une certaine décomposition, peut-être des algues qui se forment, qui en prennent un peu, mais pas beaucoup. C'est bon pour des semaines, en tout cas. C'est un effet imminent. On peut le garder un certain temps, oui. Moi, je dirais même, en mettre tous les si vous faites une solution d'engrais concentré au début de l'été, vous pouvez l'utiliser en le diluant, bien sûr, tout au long de l'été, sans problème.
Jeannette Ouellette, j'avais essayé la culture du gingembre l'année dernière. J'ai eu de belles pousses vertes, mais beaucoup de mouches, de terreau et de taches pâles et rondes sur les feuilles. Auriez-vous un conseil pour l'équilibre entre terreau humide et bonne santé du plant de gingembre?
OK. Parenthèse sur le gingembre. C'est devenu tout d'un coup populaire l'an dernier. Tout le monde cultive du gingembre. C'est la chose à faire. Et vous comprenez, dans le monde du jardinage, quand tout le monde se lance sur un sujet, c'est pas toujours approprié. Moi, j'ai écrit un texte là-dessus, parce que les gens veulent savoir, mais c'est pas vraiment une culture raisonnable. Les gens qui le font de façon professionnelle, ils produisent un gingembre de troisième qualité. Quand on peut manger frais, c'est quand même bien ça. Mais il reste quand même le bon gingembre, mais vraiment le bon. Ça va toujours être importé. Notre climat n'est pas approprié pour le gingembre. Et comme le climat n'est pas approprié, il y a bien des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui cause ces taches en question? Je ne sais pas. Je veux juste vous dire qu'est-ce que le gingembre. Gingembre aime. Pensez-y. Je pense qu'une semaine, mettez-vous dans la place d'un plant de gingembre. C'est quoi un plant de gingembre? D'où ça vient? C'est bien des jungles, et je n'exagère pas. C'est bien des jungles, probablement quelque part en Indonésie. On ne sait pas exactement. C'est une plante de sous-bois. Sous les autres plantes, pousse sur une grande humidité. Il n'y a pas de saison sèche. Il fait toujours 90% d'humidité et plus toute l'année. Et c'est ce que la plante aime. il en expose à nos étés chez nous. Wow! Quelle différence! Hein? Quel choc! Donc, on comprend que la plante pousse moins bien, qu'elle ne donne pas des résultats si extraordinaires, qu'elle ne produit pas une raison pour le conserver parce que ce n'est pas assez mûr. On peut le manger, c'est sûr, mais on n'aurait pas la perfection. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est limiter le plus possible. Pour augmenter l'humidité, pendant que la plante est à l'intérieur, parce qu'il faudrait porter ça à l'intérieur, il fait beaucoup trop frais dehors pour porter ça dehors. Il faut vraiment porter ça dans la maison. Cultiver ça peut-être sous une dôme de plastique, quelque chose comme ça, dans un grand sac de plastique, pour avoir une forte humidité. Les moucherons de terreau, bon, écoutez, tant qu'il n'y a pas 100 000, c'est pas la fin du monde, hein. C'est vraiment pas important, ça. Et si vous y avez vraiment beaucoup, vous pouvez toujours mettre un siège collant jaune à côté pour essayer d'attirer. Mais c'est nous que ça dérange. Ça ne dérange pas la plante. C'est pas qu'est-ce qui cause les taches sur les feuilles. C'est certainement pas les moucherons, hein. C'est pas leur affaire. Mais c'est peut-être la cause du stress que la plante a fait ça. Le garder ça humide, tant que vous êtes capable. L'été, acclimater la plante aux conditions à l'extérieur du sac et aux conditions de l'extérieur. Certainement que vous ne sauterez pas vos plantes de gingembre avant le mois de juillet. C'est certain. C'est vraiment vrai qu'il ne fait pas assez chaud avant ça. Et vous allez récolter très rapidement fin d'août, début de septembre. Donc, si vous avez des petits rhizomes délicieux, mais pas les gros rhizomes qu'on a l'habitude de manger. Mais encore une fois, n'oubliez pas, c'est une plante mal adaptée. Il faut accepter les résultats qu'on aura.
Monique Archambault, j'ai planté un lilas japonais l'été passé. Vers la fin de l'été, les feuilles sont devenues brunes et elles sont tombées. Donc, j'ai asperges. Asperges.
Elle doit avoir asperges.
Ah, attends.
Oui.
Un petit peu plus bas, elle dit, la question est celle-ci. J'ai des bourgeons est-ce que je dois faire quelque chose en ce printemps pour le traiter? J'imagine que ça va ensemble, là, les deux. Là.
Oui, ça se voit ensemble. Oh, oui. Non, pas du tout. C'est normal. Regardez ce qui se passe. Le lilas du Japon, qui est un petit arbre plutôt qu'un grand arbuste, comme les autres lilas, mais il fait comme les autres lilas. C'est qu'il a une croissance cyclique. Il fait des feuilles, il fait qu'il tombe à l'automne et de nouvelles feuilles au printemps. Quand il va plus mature, il va faire des boutons de fleurs aussi, qui se forment au cours de l'été, qui restent en dormance sur la plante et qui fleurissent finalement, pas au printemps, mais au début de l'été. Donc, c'est son cycle naturel. Votre plante, pourquoi les faire embrouiller de bonheur, je ne sais pas, et ce n'est pas d'importance. L'important est en dormance, et le fait qu'il y ait des bourgeons, c'est bien correct, c'est normal. Et les bourgeons doivent, ces temps-ci, commencer tranquillement à gonfler, parce que la plante réagit, même quand il fait froid, commence à réagir au retour du soleil. Si vous sortez, vous mettez des raquettes, vous allez voir là, beaucoup de plantes, vous allez voir que les bourgeons qui n'étaient pas visibles il y a 3 semaines sont maintenant très visibles. Parce que ça gonfle. C'est juste le fait d'avoir un peu d'eau, de la fonte des neiges, un peu plus chaud, un peu moins froid, et ça commence à pousser. Donc c'est tout à fait normal. C'est quand même inquiétant que les feuilles brunies, mais je ne paniquerai pas si j'étais vous. J'attendrai au printemps pour voir. D'après moi, votre plante est bien. Par contre, vous êtes au moins, à 7 ans de la floraison. Hein. C'est une plante qui prend beaucoup de temps avant de fleurir.
Sarah Pilon-Savoie. J'ai un cactus raquette qui a un voile blanc sur des raquettes à la base, mais aussi aux raquettes aux extrémités du plant. Est-ce plus un champignon ou la lignification? Si champignon, que puis-je faire pour l'aider?
J'aurais tendance à penser, si vous m'avez dit que c'était juste à la base, j'aurais dit que c'est la lignification. Parce que ceux qui connaissent les cactus raquettes, la plante fait des raquettes sur des segments de tiges aplatis, mais qui poussent l'un sur l'autre. Fait que la plante monte comme ça. Mais avec le temps, ces raquettes-là se consolident et deviennent un tronc. Donc, et ça devient brun. Donc, ça lignifie avec le temps. Donc, ce serait tout à fait normal. Qu'il y ait un peu de blanc à l'extrémité, peut-être une touche de champignon. Et si oui, que faire? Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Laissez faire. Ce n'est pas la fin du monde. La plante peut pousser très bien avec une main sous le champignon. Vous pouvez toujours essayer de l'enlever en mettant des gants, par contre, parce que son principe, on égloché des épines qui se détachent et frotter avec une linge humide pour essayer d'enlever. Pas la fin du monde. Et surtout, donner à votre plante le maximum de soleil. On sait à quel point que cette plante-là adore le plein soleil.
J'ai une sous-question qui est personnelle, mais qui en même temps peut-être pourrait aider certaines personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la lignification?
Oh, lignification. C'est que lignification veut dire quand une plante fait du bois. C'est que les plantes commencent avec des tissus qui sont mous et avec le temps, ça se solidifie et devient dur. Mais avec certaines plantes, ça va carrément devenir du bois. Et le bois, dans le nom scientifique du bois, c'est la lignine. Donc, lignification, c'est quand la plante passe du stade où les tissus sont verts et un peu mous, durs comme du bois. C'est ça, la lignification.
Merci pour ta réponse. J'imagine que si moi, je me posais la question, il y en a probablement d'autres qui se posaient la même question.
D'accord.
On va y aller avec une question d'André Simard. La distance minimale de plantation des glaïeuls peut-elle être de moins de 11 cm et avoir quand même un bel effet de groupe sans nuire à leur croissance?
OK, j'essaie de... On s'en dit, c'est pas ça de long. Non, on peut faire ça, pas de problème. Surtout les variétés naines ou même les grandes variétés, mais vous mettez rien tout le temps. Non, il n'y a pas de problème. Tant c'est les plantes un tout petit peu, c'est pas la fin du monde. C'est vrai que ça fait un bel effet quand les glaïeuls sont plantés en groupe en plus.
Brigitte Roy, est-ce qu'on peut utiliser le terreau des pots plus d'une saison?
OK. Là, vous allez voir, je suis complètement à l'opposé des centres. Des jardineries vont vous dire non, il ne faut pas. Il faut acheter un nouveau terreau à tous les ans. Et là, ils vont vous dire par la suite comment disposer de l'ancien terreau, blablabla. Mais écoutez, moi, j'utilise le même terreau et puis, pendant des années de temps. Je l'améliore parce qu'un terreau, quand vous mettez un terreau qui contient peut-être le tourbe, le pyramide, le vermiculite, d'autres choses, ça va tranquillement se décomposer. La tourbe sort tout ce qui est des morceaux de bois va disparaître et ça devient plus dense. Donc, il faut racheter des choses pour l'alléger, pour le rendre plus aéré. C'est qu'avec le temps, si vous êtes comme moi, vous rachetez du compost ou bois ramel fragmenté, qui fait en sorte que ça va s'alléger. Mais on peut l'utiliser encore et encore pendant des années. L'exception, si vous avez une plante sujette aux maladies qui se transmettent par le terreau, certaines maladies ne le font pas, d'autres oui, et que la plante que vous voulez cultiver est sujette à ces maladies-là. Là, par contre, je ne cultiverai plus cette plante-là dans ce terreau-là. Je mettrai ce terreau-là soit dans le compost, ou juste dans le jardin. Vous savez que les maladies sont spécifiques. Les maladies qui s'attaquent à votre, je ne sais pas quoi, votre aubergine, ne s'attaqueraient pas à votre laitue. Ça fait qu'il n'y a aucun problème pour ça. J'entends le silence.
Oui, désolé. Claire Messier, donc, quels sont les bénéfices de rouler notre pelouse au printemps? Est-ce vraiment nécessaire?
OK. Dans un sol sablonneux seulement, je vois une utilité à ça. C'est une chose qu'on faisait beaucoup autrefois. C'est un peu tombé, c'est normal. C'est pas terriblement utile. L'idée est qu'on voulait un gazon égal partout. Et avec le temps, deux fois, les sols, ça travaille, hein, c'est normal. Dans la nature, ça arrive aussi. Il se devient un peu plus haut ici, un peu plus basse. Donc, les gens roulaient. Le problème, c'est que rouler, avec un grand rouleau, c'est que ça compacte. Et on ne veut pas compacter le sol sous un gazon. C'est ça que je dis, un sol sablonneux, peut-être parce que ça ne se compacte pas, un sol sablonneux. Ça, on peut le faire, ça va juste... Quand vous pèsez sur un sablonneux, ça va juste l'enfoncer vers le bas et le pousser vers le côté. Donc, vous pouvez arriver à égaliser. Mais si votre sol est limoneux ou loameux ou encore plutôt glaiseux, ça ne donne rien, ça va juste nuire. Donc, ce que vous pouvez faire plutôt, c'est de terrouter. Vous appliquez du compost ou de la terre en surface, vous égalisez, ce qui va arriver, c'est que là où il y a une bosse, en égalisant, vous allez enlever la terre où là, cette terre-là, et où ça va plus se concentrer dans les poteaux, c'est bas, vous allez comme ça arriver à égaliser de cette façon-là. Mais rouler le gazon, ce n'est pas le seul moment où je roulerai un gazon. Ce serait la pose d'un gazon neuf. Je viens de poser une couche de bonne terre, disons, et je veux que ce soit un tout petit peu tassé pour que le gazon puisse prendre contact avec la terre. Dans ce cas-là, je pourrais rouler une fois. Acheter sûrement pas un rouleau à gazon. C'est quelque chose qu'on loue parce qu'on utilise très peu souvent. Je sais que moi, je suis ici depuis quoi? Presque 30 ans. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Jamais besoin encore. Très, très rare.
Manon Frère te dit, en fait, j'ai acheté du gingembre bio. Quelle est la bonne procédure pour réussir cette culture?
Ah, j'ai comme répondu, pensez même pas vraiment. Parce que la première fois, je parlais de quelqu'un qui a des problèmes, quoi faire. Et c'est sûr que c'est plus facile de faire jamais le gingembre bio parce qu'il n'a pas été traité. Parce que le gingembre de commerce est souvent été traité pour pas germer. Parce que là, vous avez un beau rhizome, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, le bio, c'est plus sûr. Par contre, si vous prenez un rhizome de gingembre dans un supermarché, pas dans la section bio, et vous voyez que ça commence à pousser, on peut le planter. Écoutez, juste une explication, donc, assez rapide. C'est une plante qui aime la chaleur. Donc, vous le partez dans la maison, dans un pot de terreau, vous le couvrez, gardez humide, vous couvrez d'une à peine de terreau, peut-être une centimètre ou deux de terreau. S'il les dépousse, il devrait en avoir pour les diriger vers le haut, en les plantant. Alors, on peut les mettre dans un pot unique ou plusieurs dans un pot plus gros, peu importe. Vous allez garder ça humide. Pas détrempé, mais un peu humide. Couvrez de préférence avec une dôme ou une sac de plastique pour garder un peu d'humidité. Vers le mois de juillet, parce qu'avant ça, c'est trop tôt, on peut commencer à acclimater. Vous allez donc enlever le sac ou le dôme, peu à peu, sur 3-4 jours, le mettre dehors, à l'abri du vent, et l'acclimater peu à peu, peut-être le rentrant le soir, le sortant le jour, et c'est un jeu là-dedans. Et quand ça fait une semaine ou deux que la plante passe plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, on peut commencer à le laisser à l'extérieur. Durant tout l'été, vous allez quand même arroser et fertiliser légèrement, pas plus. Et à l'automne, quand vous voyez venir les nuits fraîches, il est temps de récolter. Donc, ça vous donne une récolte de court rhizome, pas mûr comme on a l'habitude de voir, mais des petits débuts de rhizome qu'on peut manger. Le feuillage est comestible aussi, en passant.
Sarah Pilon-Savoie, j'ai lu votre article ce matin concernant les plantes d'intérieur qui sont en fait des touffes de semis. Est-ce qu'un spatifilum pourrait être une touffe de semis aussi?
Oh oui, c'est possible, mais en général, avec le spatifilum, c'est un autre problème. Et c'est vrai que c'est un problème. C'est que vous avez peut-être acheté un plant de spatifilum, mais ça fait des rejets. Un peu ceux qui connaissent le lilas. Donc, comme c'est le lilas d'intérieur. Vous commencez avec un, dans le temps de dire, le pot est rempli de plantes. Et évidemment, ça va pendant un certain temps, même ça augmente la floraison, parce qu'il y a plus de plants. Par contre, on arrive à un point où il y a trop de plants. Donc, soit vous remportez dans un pot plus gros, ou vous divisez. Donc oui, on peut avoir divisé, mais pas exactement la même chose. La question de touffe de semis, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que c'est devenu la technique de mise en marché pour plusieurs plantes d'intérieur, de part des marchands, donc à quelque part en Asie, juste pour en Chine ou un pays comme ça, on va semer les graines plutôt qu'une plante à des boutures. Ils sèment maintenant des graines très densément dans les pots et ça germe. Et quand ça commence à pousser, ils les vendent comme plantes d'intérieur. C'est que ça paierait bien parce qu'il y a beaucoup de feuillage. C'est en santé. Mais évidemment, chaque petit plant est trop tassé. Donc, ça ne dure pas longtemps. Là, ça, c'est un avantage pour le vendeur parce que comme les plants vont mourir, il peut en vendre d'autres. Mais idéalement, dès qu'on les reçoit, ces touffes de semis, il faut les séparer pour ne pas attendre. Ou encore, si vous avez un pot déjà trop avancé, parce que vous allez vite voir, si vous essayez de démêler un plant qui pousse en touffe très dense comme ça. Et ces méchants pois de fiturnia ou autre poussent très, très dense dans son pot. Et vous n'êtes plus capable de les séparer. Les résines sont trop entremêlées. Parce que là, l'idéal, c'est de physiquement, pas drôle, hein, couper les surplus, laisser une plante par pot, maximum deux. Et là, ça peut marcher.
Francine Pinard, j'ai retrouvé des bulbes. Des bulles, pardon, hein. Je fais quoi avec? J'attends l'automne?
Donc, c'est des bulbes, sans doute, Michel. Même si
oui, pas probable, oui.
Bonjour, vous savez, avec le correcteur d'orthographe qui nous fait dire n'importe quoi. juste pour dire, les gens ne comprendront pas. Moi, je n'utilise jamais les tablettes ni le téléphone pour écrire. Fait que je n'ai pas l'habitude de ça. Et donc, ça me choque. J'essaie de taper mon épouse pour me passer la tablette et de répondre à la question de la dame, elle veut savoir quelque chose. Je commence à taper et ça pense à ma place. Non. Je sais ce que je veux dire. Arrête de juger à ma place qu'est-ce que je veux dire. J'haïs ça. En tout cas, pas. Donc, c'est des bulbes, sans doute. Donc, la question, trouver des bulbes qui ne sont pas plantées, sans doute c'était les tulipes, les narcisses. Et j'assemble quelque chose comme ça. Bon. Non. Normalement, il aurait fallu planter à l'automne. Et vous ne pouvez pas attendre à l'automne pour les replanter. Non, parce que c'est vivant. C'est pas une bulbe, c'est pas comme une semence. Une graine peut des fois durer 1 an, 2 ans, 3 ans, sans bouger, sans réagir. Et vous pouvez le semer, ça ne va jamais. Pas toujours, mais en général, oui. Une bulbe, c'est pas comme ça. Une bulbe, c'est une barre de tige ou une section de rhizome qui est entrée en dormance. Et en dormance, c'est pas la même chose que d'arrêter complètement sa croissance. Ce bulbe-là, il utilise quand même de l'énergie pour rester en vie. Et si la plante ne reçoit pas les conditions qu'il faut, dans le temps qu'il faut, elle va commencer à sécher et mourir. Donc, on ne peut pas attendre l'automne. Si la plante, le bulbe va être mort, c'est certain. Donc, il faut le planter ce printemps. Dès que le temps permet de planter à l'extérieur, dans un sol qui permet, parce que planter pas trop tôt, c'est, quand c'est détrempé, ce n'est pas bon non plus. Dès que vous êtes capable de planter, plantez-les. Probablement que ça ne fleurira pas ni cette année-ci, ni avant plusieurs années, parce que le choc aurait été trop grand. Ou, et là, c'est ce que je fais moi-même, parce que j'ai déjà fait cette gaffe-là. Hein? Je suis une jardinier pareil, fais des gaffes aussi, oublie de planter quelque chose, ça arrive. Le plus logique, c'est de les mettre au compost. Les résultats seront de même très, très bons. Mais je sais qu'on a des difficultés à dire ça, mais c'est ce que logiquement, il faudrait faire.
Manon Frève, j'aimerais traiter les mauvaises herbes de ma pelouse tout en restant écologique. Je contrôle très bien les pissenlits manuellement. L'été dernier, j'ai mis du compost de fumier de poule partout. À l'automne, j'ai constaté que j'avais les plus belles mauvaises herbes de mon quartier. Alors, comment les éliminer?
Bon, donc, avant de paniquer, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, c'est venu par le vent, on ne sait jamais avec les mauvaises herbes. J'espère que je ne t'ai pas dans l'engrais. Compost de fumée poule. J'espère vraiment que le compost n'est pas contaminé. Ce serait bien le bout, en tout cas. Peu importe. Attendez voir au printemps. Parce que ça se peut bien que ce soit des mauvaises herbes annuelles. Ce n'est pas une bonne idée pour une mauvaise herbe annuelle de germer l'automne. Parce qu'elle va mourir au foie. Puis il n'y aurait plus rien au printemps. Mais attendez. Et en plus, supposons que certaines de ces mauvaises herbes-là étaient vivaces. Mais écoutez, votre gazon va se réveiller et le gazon est plus fort que des semis. C'est difficile de semer des choses dans un gazon existant. Ça prend mal parce que le gazon est plus fort. Les graminées et les trèfles sont plus forts que les nouveaux venus. Donc, il y a très bonne chance que ça disparaisse sans plus que ça. Mais attendez pour voir. Vous verrez bien, si certains survivent, là, il faudra les arracher.
Hélène Larrivée, l'été dernier, j'ai eu une infestation de limaces. Comment prévenir ou enrayer ce problème?
Bon, première chose, trouver le moyen de drainer le secteur, parce que normalement, si ça arrive, c'est qu'il y a trop d'eau. Pourquoi il y a trop d'eau, je ne sais pas, mais il y a trop d'eau à quelque part, parce que les limaces n'aiment pas le sol sec. Donc, trouver le moyen de drainer si vous êtes capable. Deuxièmement, parce que le faire trop rapidement est trop choquant pour notre système, mais peu à peu, prenez à chaque année les 3 ou 4 plantes les plus touchées et jetez-les. Et plantez quelque chose qui n'est pas mangé par les limaces. Parce que vous avez quelque chose là qui les nourrit. Si vous en avez les plantes qui nourrissent les limaces, la population va chuter. Les limaces peuvent manger parce que n'importe quoi. Mais quand c'est juste des dégâts ordinaires, un trou, ça et là, non, un, c'est pas si grave, et deux, ça ne crée pas une grosse population. Mais quand il y a quelque chose qu'ils aiment vraiment manger, comme par exemple certaines laitues ou certains hostas, les laisser là, ça augmente le problème. Donc, essayez de trouver quelles plantes les nourrit et éliminer. Vous pouvez toujours aussi mettre un paillis en place. Le paillis en soi ne règle pas le cas des limaces. Mais ce que ça fait, c'est que les prédateurs des limaces s'accumulent peu à peu dans le paillis. Donc, la première année, vous n'en remarquerez pas de différence. Deuxième année, un peu. La troisième année, beaucoup de prédateurs sont là. Et donc, avec le temps, ces insectes et autres s'accumulent et vont avoir raison de ça. Je donne un exemple. J'ai un ami qui est spécialiste en mammifères. On a parlé des musaraignes. Il dit, quand vous avez un bon paillis sur un potager, il peut avoir, dans un petit potager, 4 ou 5 musaraignes. Et ça mange beaucoup de limaces. Quand vous n'avez pas de paillis, il dit, il n'y en a probablement aucune. Donc, et il n'arrive pas du jour au lendemain. C'est ça qu'il faut avoir une certaine patience. Et peut-être que vos amis vont venir vous aider.
Désolé, entre chaque question, je ferme mon micro. Donc, ça se peut que j'oublie de le réactiver. Donc, j'y vais avec la question de Julie Dallaire. Nous avons emménagé ici en juin dernier. Je n'ai pas eu le temps d'étudier mon terrain suffisamment pour placer des toiles d'occultation. D'occultation, c'est ça, c'est le bon mot. En automne, pour préparer le potager. Je souhaite un grand potager. Quelle est, selon vous, la meilleure méthode de préparation du terrain?
Bon, juste pour ceux qui ne savent pas, occultation, c'est une toile qu'on va mettre qui va chauffer le sol et tuer tout ce qui est en bas. Et normalement, donc, on va mettre l'année précédente, on va mettre une toile soit noire ou transparente qui fait en sorte que ça va devenir tellement chaud que ça tue les plantes en bas. Le seul problème, c'est que ça marche très, très bien sous des climats plus chauds que le nôtre, mais ce n'est pas aussi efficace au Québec comme il ne fait pas assez chaud toujours. Il reste quand même que tout un été sans accès à l'eau, ça par contre, ni à la lumière, ça va nuire. Donc, ce n'est pas toujours l'occultation qui fonctionne que le fait d'avoir empêché l'eau et le soleil d'arriver. En tout cas, donc, normalement, comme ça, on arrive à un terrain où il n'y a presque pas de mauvaises herbes, puis on commence en paix. Ce que je fais, parce que je suis paresseux, mais je vais avoir des résultats rapidement. Donc, chez moi, je n'ai jamais fait de l'occultation. J'ai toujours fait la même chose. Quand je fais un nouveau potager, je couvre l'année même, le printemps. Je couvre avec du papier journal ou un autre produit qui se décompose. Donc, ça va contenir les mauvaises herbes ou les graminées ou peu importe ce qu'il y a là-bas. Et comme il n'y aurait pas de lumière qui passe, les plantes là vont mourir. Donc, vous avez enrayé les plantes qui étaient là. Et là, vous allez rajouter une bonne couche de terre, c'est 20 cm de terre, 30 si c'est protégé, et vous donnez là-dedans. Pas plus compliqué que ça.
Danny Marin revient sur son sujet du 20-20-20. Il dit, j'ai ce gris contenant qui va me durer bien des années. Pour finir par tout l'utiliser, puis-je l'étendre comme un engrais et laisser se diluer naturellement et espérer qu'il soit tout autant efficace?
Ben, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, j'ai des engrais qui ont duré des années aussi. Mais le problème, 20-20-20, c'est très, très, très concentré, hein? Vous allez voir de plus en plus, on utilise de moins en moins. En tout cas, c'est le cas. On n'utilise pas autant les engrais très, très, très concentrés comme ça. Ça devient une chose du passé. Ça existe encore, mais on va tranquillement les règles aux oubliettes. C'est très, très concentré, ça. Mais, ben, donc, si vous étendez ça sur un sol, vous venez d'appliquer trop d'engrais Et c'est sûr que ça va disparaître. Mais trop d'engrais dans le média peut nuire. Et en plus, une bonne partie de cet engrais-là ne sera pas absorbé par les plantes. Il va finir peut-être dans un cours d'eau quelque part. Donc, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'écouter, couvrez-vous. J'ai de l'engrais pour 20 ans et d'utiliser sur 20 ans. C'est le plus logique.
Jeannette Ouellette, elle t'écrit une réponse pleine de sagesse, comme toujours. Merci, Larry. Oui? Manon Fèvre, merci. La réponse que vous avez donnée à Mme Ouellette, ça a répondu à ma question.
Bon, des fois, c'est... on arrive, en tant que jardinier, nous arrivons souvent au même besoin en même temps, parce qu'on fait les mêmes choses, oui.
Et donc, la prochaine question est de Linda Fournier. J'ai parti des boutures de géranium à l'automne. Est-ce que je dois commencer à leur mettre de l'engrais?
Oui, ces temps-ci, oui. Moi, quand vous voyez, j'attends pas toujours début de printemps, mais presque. Disons, début de mars, au plus tôt. Parce que vous savez, avant que les plantes absorbent, ça prend un certain temps. Mais c'est avec le retour de la vie qu'on met de l'engrais. Et quand on voit que les plantes se réveillent, on peut commencer à fertiliser. J'en mettrai pas au mois de février, parce que si ça arrive, la plante n'a pas l'éclairage qu'il faut. Mais oui, il faut mettre l'engrais au mois de fin de mars, avril, mai. Pas beaucoup, pas besoin de beaucoup d'engrais, juste un peu. Mais oui, il faut commencer à les fertiliser peu à peu. Et ça vous donne une plante un peu plus verte et plus de fleurs plus tard.
Thérèse Foran, est-ce le temps d'enlever les protections hivernales cônes de styromousse en zone B? Il ne reste presque plus de neige ici.
Ah oui, absolument. Sauf, okay, je vous donne une exception tantôt. Mais en général, dès que la neige est partie, ces protections ne servent plus. C'est que les protections qu'on met à l'automne pour protéger, si c'est des cônes, je présume, c'est peut-être des rosiers. Mais c'est pour protéger contre le grand foie. Mais le période des grands foies est disparue. Au pire, ils vont peut-être faire moins 7, moins 8, moins 9. Ce n'est pas les grands foies, ça. Donc, les protections ne servent à rien actuellement. C'est les plantes qui ont... Soit les plantes sont mortes, on ne le sait pas, mais ça ne sert plus à rien. Donc, dès que vous avez accès, bon, c'est pas la note, là, mais dès que vous avez accès, oui, on peut les rentrer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème pour les... L'exception. Certaines plantes sont tellement fragiles qu'il faut les garder en dormance plus longtemps. Ce n'est pas le cas des rosiers et bulles de thé. Un rosier et bulles de thé, vous savez, une fois que ça passe, on va survivre très bien moins 12, moins 13. Fait que c'est juste plus fort que ça, ça dérange. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais je pense spécifiquement à l'hydrangée bleue. Le célèbre hydrangée bleue, qui est tellement planté, qui donne tellement d'hiver aujourd'hui. Quand vous protégez cette plante-là avec un cône arrosé ou autre, il faut laisser le maximum de temps possible. La plante ne tolère pas juste le foie, elle ne tolère même pas une soupçon de foie. Donc, moi, je dirais le laisser en place jusqu'à la fin de mai. Quand tout est vert, vous pouvez l'enlever, mais pas avant. Terrible, hein? Mais cette plante-là, là, a moins de soupçon de foie et on perd la floraison.
Francine Pinard, j'ai des arbustes que les petits pots lièvres, les petits lièvres, pardon, ont grignoté l'écorce sur une bonne distance. Est-ce que ça cause des dommages sévères? Je laisse guérir ou je ne sais pas. Et si dommage, je dois protéger comment à l'automne prochain?
Et la première chose, c'est de ne pas paniquer. C'est normal dans la vraie vie. Il y a des lièvres où il y a des mulots, campagnards, je devrais dire, qui grignotent et l'écorce, et c'est normal. Et la plupart des plantes récupèrent. Ça se peut que malheureusement, quelques plantes ont été trop rongées et ne repoussent pas. Mais en général, ça repousse. Donc, on ne panique pas avec ça. Deuxièmement, s'il y a beaucoup de dégâts cet hiver, en général, ça veut dire que vous avez plus de années de paix pour la suite. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de lièvres. Beaucoup de lièvres. Et la population, quand il y a beaucoup de lièvres, la population chute après. Et vous avez des années avant que ça remonte et vous commencez à avoir le même problème. Donc, à moins de savoir d'avance que vous allez avoir un hiver à lièvres et éventuellement, quelqu'un dans le domaine agricole va trouver une, pourquoi, une chose à mettre sur mon téléphone qui va sonner à l'automne pour dire cet hiver-ci, il reste d'avoir des lièvres, voici quoi faire. Mais tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas vraiment la peine de faire grand-chose. Parce qu'on peut toujours faire des choses pour les prévenir. Quand, par exemple, les entourer avec un grillage à l'automne, mais est-ce que vous allez faire ça à tous les ans? Parce qu'une fois sur 7 ans, il y a des dégâts. Je soupçonne que non.
Possiblement la dernière question de Jeannette Ouellette. Vessis est-elle seulement un distributeur en ligne? Peut-on trouver leurs produits en magasin? Je pense encore à mon inoculant Rhizobium. Merci.
La réponse est non. C'est strictement un distributeur en ligne. Au moins d'aller à l'île de Prince-Édouard, ce qui pourrait être une excellente expédition. Je ne dis pas le contraire. Mais allant vers cette place, parce qu'ils ont une boutique, non, ils ne vendent que par la poste. Vous ne pouvez pas l'avoir en magasin. Je ne dis pas que ça n'existe pas en magasin, mais je n'en ai pas vu. Pas depuis que l'autre compagnie a fait faillite. Peut-être que ça va revenir. Ou sans doute que quelqu'un m'a vu m'aviser. Mais pour l'instant, il va falloir le faire venir. Ça n'arrivera pas chez vous.
On va y aller très rapidement. Steve Gagnon, est-ce une bonne pratique de déchaumer le gazon au printemps?
Presque jamais. Très, très rare. L'idée de déchaumer le gazon, c'était inventé pour créer de l'emploi aux horticulteurs. C'est très rare. Je ne dis pas dans les coins secs, de Colombie-Britannique, dans les montagnes, ou en Californie, ou en Arizona, et places semblables, que les chaumes s'accumulent au moins de nuisibles. Mais au Québec, en général, on a juste une mince couche de chaume. Et une mince couche de chaume, c'est bénéfique. Alors, pourquoi on avait quelque chose de bénéfique? Non, moi, je dirais, au Québec, en général, c'est pas nécessaire. Si vous avez un cas très spécifique, peut-être, mais c'est bien, bien rare. En général, la consigne, non, déchaumez pas, c'est pas la peine. Et avec ça, paraît-il, c'est la fin de l'émission. Donc, voilà. J'espère que je vous ai plu. On va se revoir la semaine prochaine, toujours. Toujours à 10h le mercredi. Merci beaucoup, comme toujours, à Michel Bédard qui s'est occupé, comme toujours, de gérer les questions. Et également à Marlène Bordelot, que vous ne voyez pas, mais qui est en arrière, qui gère les choses pour ses carrières. Alors, bonne semaine et bon jardinage à tous.
Bye bye tout le monde. Voilà, c'est
un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Pour tout savoir sur la programmation de CKIA, pour être au courant des événements culturels et communautaires de Québec, visitez le ckiafm.org ou branchez-vous sur Facebook ou Twitter. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Ici Alain Lalancette. Je vous invite au Jazz Bazar tous les dimanches de 17h à 20h sur les ondes de CKIA FM. Je vous offrirai alors un cocktail musical en jazz contemporain, fusion et métissage. Je vous accueille donc dimanche dès 17h au 88.3.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Mais oui, je suis disponible pour travailler. Pourquoi vous me coupez?
L'assurance-emploi te ferme la porte au nez? Action Chômage de Québec défend tes droits. Visite le actionchômage.org ou abonne-toi à notre page Facebook, facebook.com/actionchômage.
Je me soulève, un film de Hugo Latulippe. 20 jeunes actrices et acteurs s'affairent à saisir l'esprit de notre temps en fouillant la poésie contemporaine québécoise, d'après la pièce de Véronique et Gabriel Côté. Insurgés, habités par la ferveur de ceux et celles qui rêvent de beauté, ils